Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, bienvenue cette semaine pour une nouvelle émission podcast. Vous savez, Conflit s'écoute, Conflit se lit également. Vous pouvez nous retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com. Conflit ne vit que par ses lecteurs et donc en vous abonnant, en faisant connaître Conflit, vous permettez à la revue de continuer à se développer. Si vous aimez Conflit, si vous écoutez régulièrement nos émissions, n'hésitez pas à les diffuser, en parler autour de vous. C'est la meilleure manière de nous aider et de continuer à ce que nous puissions vous offrir chaque semaine des émissions et tous les jours sur le site de Conflit des articles. Certains sont en accès libre, certains sont réservés aux abonnés. Alors depuis 2 ans que la Russie est entrée en guerre en Ukraine, on écrit beaucoup, on dit beaucoup, souvent sur des questions d'actualité. Conflit a consacré des dossiers à cette guerre en Ukraine, des émissions podcast que vous pouvez retrouver dans les archives de Conflit. Et cette semaine, on va aller au-delà de l'actualité ou des questions militaires pour essayer d'entrer dans la tête des Russes, dans la tête de Vladimir Poutine, comprendre comment fonctionne la Russie, comment fonctionne le logiciel impérial russe. C'est le titre d'un ouvrage fraîchement paru aux éditions L'Artilleur, ouvrage de Jean-Robert Raviot. Bonjour Jean-Robert Raviot.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci beaucoup d'être à notre micro. Vous êtes docteur en histoire, professeur en études russes et post-soviétiques à l'université Paris-Nanterre, ancien directeur des collèges universitaires français de Moscou et de Saint-Pétersbourg. On a eu l'occasion de réaliser une émission il y a quelques années sur la Russie post-soviétique. Vous avez notamment vécu en Russie au moment de la disparition du communisme et du soviétisme et des transformations politiques. Et donc cet ouvrage paru chez l'Artilleur, le logiciel impérial russe, ouvrage majeur parce que évidemment il y a des aspects d'actualité, la guerre en Ukraine est présente, mais enfin vous allez au-delà et vous allez essayer de vous présenter la pensée russe. Il y a, parmi les notions que vous évoquez, il y en a une qui m'a paru tout à fait intéressante et que j'ai trouvé vraiment passionnante parce que je crois que vous êtes la seule à la développer, c'est la notion de kremlinocentrisme ou de Kremlin centré. En tout cas, c'est, me semble-t-il, votre thèse, le fait que en Russie, les choses sont centrées autour du Kremlin.
Absolument. Alors, c'est un néologisme, mais je m'en excuse parce que c'est pas très joli. Kremlinocentrisme, j'en ai inventé un autre plus rigolo, mais pas facile à dire, qui est moscopolitisme. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'en fait, le logiciel impérial russe, de manière très synthétique, s'apparente à une dynamique politique centrée autour de l'État russe. L'État russe moderne, c'est-à-dire l'Empire de Russie, puis l'URSS, puis la Fédération de Russie, qui sont dans une continuité, qui sont envisagées dans une continuité historique, c'est-à-dire que la Fédération de Russie d'aujourd'hui, c'est la continuation de l'URSS, qui elle-même était la continuation de l'Empire de Russie. Par-delà les ruptures, rupture de la révolution bolchevique en 17, rupture de la chute de l'URSS en 91, par-delà les ruptures, on observe une grande continuité. Cette continuité, elle peut être vue à travers un certain nombre d'institutions, elle peut être saisie à travers un certain nombre de réflexes pratiques du pouvoir, mais moi je la saisis dans ce livre à travers la dynamique de ce que j'appelle kremlinocentrisme et moscopolitisme, c'est-à-dire c'est une dynamique qui consiste à mobiliser et à concentrer les ressources avec pour tâche principale la construction et la consolidation d'un État avec pour capitale Moscou, un État qui est à la fois un État qui projette sa puissance. Donc, tout d'abord, il projette sa puissance de manière territoriale en réalisant une expansion territoriale d'ampleur continentale sur 3-4 siècles. Expansion vers l'Est, vers la Sibérie, expansion vers l'Ouest, vers l'Europe, expansion vers le Sud, le Caucase au début 19e, l'Asie centrale fin 19e. Donc cet État s'est construit par l'expansion territoriale, a construit ses institutions, notamment militaires et politiques, autour de l'impératif de l'expansion, mais aussi de la consolidation de ses conquêtes. Et il ne s'agit pas seulement, l'expansion, c'est une chose. Ensuite, gouverner tous ces territoires, c'est une autre chose, c'est un autre défi. Et donc, il y a cette construction, à cet impératif de la construction d'État, il y a à la fois l'expansion, puis ensuite la consolidation des acquis, le gouvernement des territoires. Et là, il y a la prise de conscience par les dirigeants russes d'une grande fragilité de l'État. Donc, c'est un État qui a une volonté de puissance manifeste, mais aussi une très grande fragilité intrinsèque, géopolitique, liée à sa géographie, liée à son territoire, à l'immensité de son territoire, mais aussi à l'absence de frontières naturelles et à la difficulté qu'il peut y avoir à gouverner un territoire aussi vaste, difficultés logistiques, difficultés de communication, aussi vaste et aussi finalement septentrionale et enclavée que la Russie.
Alors, vous insistez vraiment sur la notion d'empire, le fait notamment que la population russe est une population parmi d'autres dans l'empire. La Russie est un territoire, un État multiethnique.
Alors effectivement, selon la constitution actuelle de la Russie, donc de 1993, et dans les réformes constitutionnelles de 2020, ce terme, cet adjectif a été introduit et réaffirmé. Là, le peuple russe, donc russe au sens ethnique du terme, constitue le peuple formateur de l'État. Ça s'appelle en russe « Gasudarstvo obrazayushchi narod ». Alors, c'est un terme un peu étrange, mais qui désigne une réalité historique, qui est que le peuple russe, la Russie, si on peut dire au sens historique du terme, c'est-à-dire la Russie autour de Moscou, hein, au départ, c'est la grande principauté de Moscou qui va prendre le contrôle de Novgorod et puis des principautés de l'anneau d'or autour. Cette Russie orthodoxe, slave orientale orthodoxe, et son peuple sont le peuple qui est le noyau dur d'une formation étatique qui va très rapidement, dès ses débuts, au XVIe siècle, prendre le contrôle de territoires qui ne sont ni chrétiens ni slaves. Donc, c'est l'émirat de Kazan, et puis l'émirat d'Astrakhan, et puis ces conquêtes des reliquats de la Horde d'Or de l'Empire mongol vont permettre à la Russie ensuite de pousser vers l'Est et de conquérir la Sibérie. Autre reliquat de la Horde d'Or, l'émirat au Khanat de Sibir, qui donnera son nom à Sibérie. Alors, donc c'était à la fois un empire avec un peuple, disons, noyau dur, le peuple russe, mais multiethnique et qui devient de plus en plus multiethnique au fur et à mesure de l'expansion territoriale. Et donc cette gestion de la dimension multiethnique de la Russie, c'est quelque chose qui fait partie également du logiciel impérial. Et là, on a toutes sortes de toute une palette dans l'histoire de gestion, la force, la répression, la cooptation, la séduction, l'annexion, etc. Alors, ce que je voulais dire, en fait, c'est que la Russie est effectivement un empire et la Fédération de Russie est donc un post-empire. Ce n'est plus un empire au sens proprement étatique. Il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus d'institution impériale et puis il n'y a plus l'État ne se proclame plus être un empire. L'URSS non plus n'était pas un empire. Mais néanmoins, elle avait des formes impériales. La Russie a des formes post-impériales qui se manifestent notamment dans la gestion par la Russie de son voisinage immédiat, ou ses voisinages immédiats, plus exactement, à l'ouest, en Ukraine, au sud, dans le Caucase, en Asie centrale, qui sont des voisinages qui, historiquement, ont fait partie de l'ensemble russe, qui n'en font plus partie. Et là, on voit qu'à travers cette notion d'étranger proche, qui est une notion qui a été façonnée dans les années 90, qui est un peu abandonnée aujourd'hui, mais quand même, il y a effectivement un des aspects intéressants du kremlinocentrisme et du moscopolitisme, c'est que il y a à la fois, comme je disais, cette dialectique entre projection de puissance, affirmation de la puissance et conscience de la fragilité de l'État, donc extrême grande crainte que cet État russe ne s'effondre. Alors, il y a des craintes objectives. Historiquement, en 1917, l'Empire de Russie s'est effondré. Historiquement, en 1991, l'URSS s'était éclatée. Et puis, historiquement aussi, en juin 1941, l'Union soviétique de Staline n'était pas très loin de l'effondrement militaire face à la poussée et à l'invasion allemande. Donc, il y a cette grande conscience, cette grande crainte intériorisée, je dirais, qui est souvent, nous, les Occidentaux, on a tendance à voir ça de manière, comment dire, comme une espèce de paranoïa russe. Mais cette paranoïa n'en est pas une parce qu'elle est fondée sur la mémoire d'événements tout à fait réels qui ont mis cet Empire de Russie, puis cette URSS, au pied du mur. Plus qu'au pied du mur, voire détruit des institutions et nécessité de réanimer à ce moment-là la dynamique que j'appelle kremlinocentrisme autour de l'État et de reconstruire un État qui puisse projeter sa puissance. Effectivement, le paradoxe de l'Empire de Russie, le paradoxe historique est une des raisons pour lesquelles je pense n'est pas très bien compris, pas très bien perçu même en Europe, c'est qu'il y a, c'est à la fois, alors moi je tranche dans toutes les discussions qu'il y a sur la Russie d'aujourd'hui est-elle l'héritière de la Rousse de Kiev, etc. Moi je pense qu'effectivement il y a des liens avec la Rousse de Kiev et donc les origines profondes de cet État remontent à la Rousse de Kiev au 9e siècle, 10e siècle, au temps de la christianisation de la Rousse, mais qu'il y a quand même une très très grande historique et, entre l'effondrement de cette Rousse de Kiev et puis la reconstitution d'un État russe autour de Moscou à partir de la fin du 15e siècle. Il se passe quand même trois siècles complets d'invasion mongole et d'occupation, d'éclatement en fait des grands principautés russes et slaves de l'Est dans le territoire. Je pense que l'État russe d'aujourd'hui est né à Moscou, quelque part vers 1480, et qu'on est dans cette continuité-là et beaucoup moins dans celle de la Rousse de Kiev. Donc, moi, j'ai une analyse très géopolitique de la constitution de l'État russe, et je pense qu'effectivement, la dimension géopolitique, la constitution d'un territoire continental est véritablement un élément central du logiciel russe d'aujourd'hui.
Oui, ce que je trouve surprenant, surprenant aussi, c'est que la Russie, malgré tout, a tenu. Il y a des forces centrifuges dans le Caucase ou en Sibérie, mais finalement, ce territoire immense a réussi à tenir. Il n'y a pas eu d'éclatement complet de la Russie. Il y a eu un éclatement en 1991 où la Russie a eu des territoires qui ont toujours été dans l'Empire russe, comme le Kazakhstan. Mais sinon, le reste a tenu. Elle n'a pas été réduite uniquement à la région Moscou-Saint-Pétersbourg.
Elle ne l'a pas été, en tout cas depuis très très longtemps, depuis 7-8 siècles. Donc l'État russe tel qu'il s'est constitué à la fin du 15e est resté globalement, on va dire, intégral, sauf évidemment après la chute de l'URSS, on a vu une rétraction. Alors cette phénomène de... Historiquement, on a d'abord une expansion territoriale, du 15e jusqu'à fin 19e, puis ensuite on a au 20e siècle cette... rétraction et reconquête 1917-1921, donc rétraction et puis reconquête d'un certain nombre de territoires par Moscou, sous la tutelle de Moscou. Et puis ensuite, on a cette rétraction post-soviétique avec cette toute petite expansion qui s'est réalisée aux dépens de l'Ukraine, là, en Crimée, et puis dans les quatre régions annexées pendant la guerre. Mais effectivement, l'État russe, le noyau dur, on peut dire, s'est constitué, le noyau dur moscopolite, il s'est maintenu. Et pourtant, ce noyau dur, cette intégrité territoriale de la Russie dans ses frontières actuelles est perçue comme étant en danger. Alors, ça peut paraître extrêmement étrange, perçu par qui ? Par les dirigeantes actuelles, par Poutine, qui l'a dit à plusieurs reprises, mais aussi par de nombreux, par un ensemble assez large d'élites dirigeantes politiques, économiques, militaires intellectuel russe pense qu'il y a effectivement ce danger d'éclatement de la Russie ou d'affaiblissement du noyau dur moscopolite. Il est d'abord objectivement réel d'un point de vue socio-économique. On est dans un pays qui est extrêmement polarisé du point de vue socio-économique et territorialement, des régions très riches, des régions pauvres. Et puis, je dirais que la centralisation politique qu'on observe et qui s'est fortement accru sous la présidence de Poutine depuis 2000, cette centralisation politique, je montre qu'en fait, au-delà des conjectures proprement, je dirais, politico-politiques, il y a vraiment un fond géopolitique à cela, parce que il y a en fédération aussi 85 sujets de la fédération, 15 sujets qui sont contributeurs au budget fédéral et 70 autres sont receveurs nets. Ce qui veut dire que la redistribution des recettes et la redistribution des ressources économiques du territoire russe entre les régions les plus riches et l'ensemble du territoire nécessite de fait un rôle centralisateur et moteur de l'État central et de l'État fédéral. Donc cette centralisation, elle est la marque du poutinisme, mais elle est aussi la marque d'une réalité beaucoup plus, j'allais dire, triviale, beaucoup plus fondamentale, qui est celle de l'inégalité socio-économique des territoires. Inégalité socio-économique, inégalité ou disparité ethnique, culturelle, mais aussi socio-démographique. C'est très important d'observer que, par exemple, dans le Nord-Caucase, dans les régions, dans les républiques de Daghestan, de Tchétchénie, les Ingouchis, etc., qui sont peuplés en majorité de nationalités non russes, hein, caucasiennes, musulmanes ou pas d'ailleurs, enfin, globalement, souvent musulmanes, on a là affaire à des sociétés que ma collègue Natalia Zubarevitch appelle la Russie de l'étranger intérieur. Donc, il y aurait l'étranger proche, puis l'étranger intérieur. L'étranger intérieur, ces régions qui sont caractérisées par une identité fortement marquée, alors ethnique et religieuse, différente de l'ensemble russe, mais aussi des comportements sociodémographiques très différents et très en grand décalage. Seul chiffre, au Daghestan, République du Daghestan, on est à 3,3 enfants par femme selon en 2020. Dans le reste de la Russie, globalement, c'est 1,5. Bon, alors, donc ça vous donne on peut à partir de là extrapoler voir que cette population daghestanaise est plus jeune, plus, avec un taux de natalité plus élevé. Donc, on est dans une autre société. Et maintenir ensemble ces différents territoires, les pauvres, les riches, etc., est un défi permanent qui est considéré comme une fragilité interne intrinsèque à l'État russe. Et puis, il y a aussi la crainte d'un danger extérieur, c'est-à-dire que des puissances étrangères, voisines, régionales, voire plus lointaines, excipent de cette diversité du territoire et s'appuient sur des minorités pour essayer de déstabiliser la Russie de l'intérieur. Alors, actuellement, pendant la guerre, depuis 2022, on est en train en phase active de la guerre russo-ukrainienne avec l'invasion russe. Cet argument revient souvent dans les chaînes, les talk-shows en Russie, disant voilà, les Américains, les Occidentaux essaient de déstabiliser par tous les moyens la Russie en s'appuyant sur les minorités, en appuyant par exemple les dissidents tchétchènes, en appuyant des mouvements autonomistes ou indépendantistes. Quelque part en Sibérie, dans l'Oural, etc. Alors tout ça, c'est largement exagéré, bien sûr. Le seul moment dans l'histoire récente où on a pu voir hein, les puissances extérieures instrumentaliser des minorités en Russie, l'histoire depuis le 15e, 16e siècle, les Polonais, on ne va pas refaire toute l'histoire pendant la Révolution russe, les interventions extérieures, l'appui de certains pays, par exemple aux musulmans de Russie, 17 et 20, mais aujourd'hui la seule véritable politique, les deux seules véritables politiques d'intervention extérieure ou d'influence extérieure en Russie qu'on peut vraiment saisir avec pour objectif de déstabiliser, on va dire, et d'appuyer un mouvement autonomiste, c'est l'appui de certains et puis c'est un acte international et certif lors dans les années 90 et 2000, puis presque officiellement reconnu par la CIA, l'appui logistique et renseignement à certaines forces indépendantistes tchétchènes dans les années 90. Mais donc on est très très loin d'une politique occidentale extrêmement développée de vouloir faire éclater la Russie, en dépit de certains discours qu'on voit, qu'on entend, y compris au Parlement européen, un peu dans la mouvance du nationalisme ukrainien ou du nationalisme polonais des années 20 et 30, réactivé à la faveur des événements actuels. Il consistait à dire, il y a tout un courant de la pensée dans les années 20 et 30 en Pologne et dans le nationalisme ukrainien, qui disait, tant que la Russie sera un État, puissant, les États d'Europe de l'Est voisins ne pourront pas s'épanouir en tant que nation et ne pourront pas former leurs États-nations. Donc il faudrait que la Russie soit éclate, en fait, et soit divisée en plusieurs États. Alors là, vous avez des projets qui circulent sur Internet, créer beaucoup de débats et de...
Oui, les cartes ont été montrées, envoyé un gros gâteau partagé, oui.
Alors 12, 17, 24, enfin plusieurs projets, mais tout ça est pas véritablement, enfin reste pour l'instant essentiellement du domaine du discours. Néanmoins, en dépit du caractère virtuel de tout ça, largement virtuel, ça a un fort impact, je dirais, sur l'élite russe qui considère qu'il y a un véritable danger. Qu'il y a une véritable volonté de déstabilisation de la Russie, voire d'affaiblissement de cet État, de cette dynamique moscopolite qui est souhaitée, voulue par les pays occidentaux. Et ça, c'est quelque chose que les élites russes expriment. Et que, si on regarde un peu les sondages, on s'aperçoit que c'est une idée diffuse, assez largement diffusée en Russie, aujourd'hui dans l'opinion publique.
C'est-à-dire qu'il y a la réalité, puis il y a la perception de la réalité, et c'est finalement ça qui l'emporte. C'est ce que les Russes voient de l'Occident et ce qu'ils imaginent de l'Occident.
Absolument, la perception l'emporte toujours sur la réalité, malheureusement, si on peut dire. D'où l'importance d'une revue comme Conflit, ou du travail qu'on peut mener ici et là pour toujours bien montrer l'écart qu'il peut y avoir entre les réalités et leur perception et leur même instrumentalisation politique. Mais oui, c'est ce sentiment que dans la guerre en Ukraine actuellement, les Occidentaux ne font pas la guerre pour soutenir l'Ukraine, mais font la guerre pour affaiblir la Russie, est un sentiment qui est partagé par presque 75% des Russes, selon un sondage qui a été publié il y a mois d'octobre dernier par la Fondation Levada.
Je voulais vous interroger sur les relations Russie-Chine. On a vu avec cette guerre en Ukraine qu'il y a eu un rapprochement des relations. Est-ce que ce sont des relations d'égal à égal par rapport à la masse démographique chinoise? J'ai plutôt l'impression que les régions de la Sibérie ou du fleuve Amour qui sont assez vides d'hommes vont peut-être se faire prendre ou coloniser par la masse chinoise.
Alors ça, c'est une grande crainte aussi exprimée par la Russie. Donc la relation russo-chinoise, elle est, pour donner deux, je m'arrêtais à deux caractéristiques qui me semblent être les plus importantes. C'est d'abord, elle est asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a une très très grande asymétrie de puissance, alors de population, vous l'avez rappelé, 1,3 milliard contre 147 millions, une asymétrie économique, une asymétrie de structure socio-économique, et une asymétrie de puissance en dehors du domaine militaire. Il y a une véritable asymétrie entre une superpuissance, la Chine, enfin la taille économique de son économie, et la Russie. Bon, alors l'asymétrie, elle se double aussi. Alors cette asymétrie crée... Alors effectivement, il y a un rapprochement qui a été largement d'ailleurs précipité par l'hostilité occidentale à l'égard et de la Chine et de la Russie. Je pense que un analyste russe avait... deux analystes, un russe et un américain, avaient écrit un article il y a quelques années ensemble sur ce rapprochement russo-chinois en l'intitulant, le titre de l'article était le cauchemar de Kissinger, Kissinger's Nightmare, c'est-à-dire qu'en fait, ce rapprochement, c'est absolument tout ce que les États-Unis ne voulaient pas voir arriver dans les années 70 au moment du rapprochement sino-américain, la visite de Nixon à Pékin, où les Américains avaient fort habilement joué la carte chinoise pour... distendre et prendre du champ par rapport au dialogue américano-soviétique de la détente. Bon, là, on a complètement précipité l'inverse. Alors, mon chapitre s'appelle « Russie-Chine, deux points, une nouvelle alliance, point d'interrogation ». Alors, l'alliance, on est loin de ça, parce qu'il y a cette asymétrie, et parce qu'il y a aussi le fait que la Russie sont à la fois, sont aussi des voisines, bon, des États voisins qui ont des frontières communes. Et alors, si on regarde ces frontières, c'est des frontières communes actuelles, post-soviétiques, donc qui sont essentiellement concentrées à l'extrême-orient du pays, sur le fleuve Amour. Et puis, Il y a une frontière plus ancienne qui était celle de l'Empire de Russie, de l'URSS avec la Chine, qui était essentiellement en Asie centrale. Et désormais, cette frontière n'existe plus directement entre la Russie et la Chine, mais il y a toute une série d'États qui sont apparus, indépendants, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, qui sont en fait une zone intermédiaire entre la Chine et la Russie, et qui sont un voisinage proche pour la Russie et un voisinage hyper stratégique pour la Chine. Donc en fait, ce sont des voisins qui gèrent une frontière commune et qui gèrent aussi cet espace d'Asie centrale qui est un... ils sont tous les deux d'accord, peut-être pas sur tous les détails, mais il y a une rivalité hein, de la Chine et de la Russie dans ces régions, mais il y a un partage des tâches, on va dire globalement, la Chine, investisseur et premier partenaire économique des pays d'Asie centrale, et la Russie, fournisseur de sécurité et disons, puissance tutélaire politique à travers l'Union eurasiatique. Et ce partenariat, on peut dire, cette entente russo-chinoise sur l'Asie centrale, elle est très fondamentale parce qu'elle montre la vraie nature de la relation russo-chinoise. On n'est pas dans une alliance, on est plutôt dans un partenariat qui consiste à tirer parti au maximum des relations qu'on peut avoir l'un avec l'autre. Donc effectivement, quand Xi Jinping, de manière très lyrique, a réaffirmé récemment qu'on était dans une alliance éternelle, ou je sais pas quoi, d'amitié éternelle, sans limite, amitié sans limite. Bon, tout ça, c'est bon. Ouais, voilà. Mais ça veut dire qu'on est très pragmatiquement dans l'idée qu'il faut que la Russie et la Chine s'entendent essentiellement pour ne pas laisser d'autres puissances prendre appui dans cette région, notamment les États-Unis, l'Inde, etc. Donc, il y a un véritable jeu ici russo-chinois d'alliance de revers contre des partenaires extérieurs. Et si on regarde, comme vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas un danger d'invasion chinoise ou de prise de contrôle par les Chinois des régions vides de la Russie orientale, extrême orientale, qui d'ailleurs se vide de plus en plus. Il y a un vrai problème de mise en valeur de ces territoires, de peuplement, de mise en valeur économique, en dépit de nombreux investissements, des nombreux programmes fédéraux pour mettre en valeur cette région. On constate que cette région est caractérisé par un dépeuplement perdu plus de 20% de la population en 30 ans. Alors, à mon avis, si vous regardez très concrètement ce que j'ai essayé de faire dans le livre, j'ai essayé de m'intéresser à des choses très concrètes. Par exemple, je me suis aperçu, je regardais, bon, cette frontière russo-chinoise, le fleuve, il y a des frontières terrestres. Bon, on se rend compte qu'il n'y a que deux points de passage pour des poids lourds. Voilà. Et qu'il y en a un qui vient d'être ouvert en 2022. Bon, donc ça montre déjà, un des aspects de cette relation russo-chinoise très concrètement, les relations économiques, il y a un vrai boom des relations économiques mutuelles depuis la guerre, parce que la Chine se substitue à l'Occident pour les pièces détachées, pour un certain nombre de produits, etc. Donc la Chine devient le premier partenaire économique de la Russie, alors que la Russie n'est que le dixième partenaire économique de la Chine. Voilà la symétrie. Mais si on regarde les régions frontalières, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a le vide russe, mais il y a aussi le vide chinois dans cette région du nord-est. C'est-à-dire dans la région de la Chine, la Mandchourie, hein, dans le nord-est de la Chine, c'est une région assez peu peuplée où l'État chinois a lui aussi du mal à mettre en place des programmes pour essayer d'attirer la population, mais qui n'attire pas beaucoup la population. Donc on est paradoxalement dans un voisinage du vide, en fait, quelque part. Si on garde l'occupation du territoire, si on garde la circulation concrète des personnes et des biens, on est vraiment dans un espace presque vide pour la Chine, parce que la Chine, si on garde au contraire, la Chine est un État qui, pour ses relations extérieures...
C'est très intertéritorial.
C'est un État maritime, hein, voilà, c'est clair.
Oui, la population est essentiellement concentrée sur la mer.
Absolument, et puis la production aussi, et puis l'exportation, et puis la capacité, la logistique d'exportation, elle se fait essentiellement par la mer, en dépit de l'ouverture de la soie et du ligne ferroviaire et de la volonté chinoise de se continentaliser, si on peut dire, et donc qui est tout bénéfice pour la Russie, hein, cette de la soie, a priori. Mais néanmoins, la réalité chinoise, c'est quand même celle d'une économie tournée vers l'exportation maritime, et donc quand on regarde les régions russes, enfin frontalières russo-chinoises du nord-est de la Chine et de l'extrême-orient russe, on constate que la réalité, c'est quand même un peu le voisinage du vide, comme je dis. Hein.
Dernière question, Jean-Robert Raviot, sur
ce qu'on appelle l'étranger proche, notamment les pays en stand, Kazakhstan et autres. J'ai l'impression qu'au cours de cette guerre en Ukraine, ils se sont beaucoup éloignés de la Russie, ils ont pris leur distance par crainte d'une invasion, puis par une volonté aussi d'affirmer leur indépendance. Est-ce que cette guerre en Ukraine, c'est pas la fin de l'influence russe ou de la présence russe dans cette région?
Alors, je pense que ce n'est pas la fin de la présence russe ou de l'influence russe, loin de là, parce que ces pays restent, pour le Kazakhstan par exemple, membres de l'Union Eurasiatique, de l'OTSE, ou des grandes organisations internationales dirigées par la Russie. Je pense qu'il y a une volonté qui d'ailleurs se manifeste de manière différente selon les pays. Donc, on ne peut pas dire l'Asie centrale dans son ensemble, mais il faut garder séparément le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, bon, surtout les trois, Kyrgyzstan, Kazakhstan et Ouzbékistan, ont une volonté de qualifier de multivectoriel. C'est-à-dire, ils ont saisi, d'abord, ces pays tirent parti de la guerre en Ukraine d'un point de vue économique, parce qu'ils sont des pays relais pour les exportations et importations de la Russie. C'est par ces pays que transitent, notamment, mais il y a d'autres pays, la Géorgie, l'Arménie, la Turquie, bon, mais ces pays, en particulier le Kazakhstan et le Kyrgyzstan, sont des pays relais de l'import-export, accueillent aussi des citoyens russes qui sont, soit ont fui la conscription, mais surtout qui sont venus s'installer dans des pays voisins pour pouvoir continuer à travailler, notamment ceux qui travaillent dans le domaine des technologies de l'information, qui manipulent des technologies sous sanctions ou bloquées, etc., en Russie, se sont installés à Almaty, par exemple, au Kazakhstan, au Bishkek, au Kyrgyzstan. Je pense que ces pays en stand, comme vous dites, ont pris pleinement conscience depuis 30 ans de leur indépendance politique, donc qui n'existait pas avant, et surtout qui sont des interfaces. Alors, interface entre la Russie et la Chine, mais aussi interface plus large entre l'espace continental eurasiatique russo-chinois et le Moyen-Orient et l'Orient tout court, l'Inde, l'Iran, Pakistan, l'Afghanistan, et puis plus largement l'Occident. Et ce qu'on voit depuis la guerre en Ukraine, c'est, je dirais, plutôt la manifestation de... En tout cas, si je regarde surtout le Kazakhstan, qui est le pays que je suis le plus dans cette région, et dans lequel je vais bientôt aller, donc il faudra m'en rendre compte un peu sur place, mais la volonté, c'est de ne pas s'enfermer dans une relation exclusive ni avec la Russie, ni avec la Chine, ni avec l'Occident, mais de jouer toutes les partitions possibles. Et donc, je pense que, personnellement, si je puis me permettre de donner mon avis, je pense que c'est une politique très intelligente qui va ouvrir des possibilités économiques et politiques de tous ces pays, et qu'il y a effectivement la volonté de tenir, d'être à la fois dans le multivectoriel et de ne pas tomber sous la coupe exclusive d'une puissance tutélaire, qui a été quand même le cas de ces régions depuis la fin du 19e, qui sont tombées dans l'orbite de la Russie, puis dans l'Empire de Russie au 19e siècle, dans un contexte de conflit, de conflictualité entre l'Empire de Russie et la Grande-Bretagne qui était présente en Inde. Donc là, ils ont plusieurs voisins, gros voisins proches et puis plus lointains qui s'intéressent à eux, donc ils vont jouer la partition multivectorielle, et je pense qu'ils ont tout à fait raison de faire ça.
Merci beaucoup Jean-Robert Raviot pour ces éclairages. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, Le logiciel impérial russe, qui est paru chez l'Artilleur. Les références sont, comme chaque semaine, à retrouver sur le site de conflit sur lequel vous pouvez retrouver aussi des nombreux articles. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a de nombreuses cartes, dont certaines sont issues d'ailleurs des cartes de conflit. Donc c'est aussi très bien de la part de l'éditeur d'avoir eu la bonne idée de publier des cartes, parce que c'est absolument fondamental. Et d'autres cartes réalisées par un cartographe qui est Vladimir Paltovski, qui a également réalisé des cartes essentielles pour comprendre ce dont vous parlez dans l'ouvrage. Merci beaucoup Jean-Robert Raviot, à très bientôt.
Merci Jean-Baptiste, merci.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.